Bonjour, Raymond Brichard au micro. Eh bien, je vous retrouve avec plaisir pour l'émission Terre solidaire. Et aujourd'hui, je voudrais parler des journées un peu spécifiques du mois d'octobre. Le 16 octobre, c'est la journée contre la faim et pour l'alimentation. Le 17 octobre, c'est la journée du refus de la misère. Dans les deux cas, on voit le lien entre la Terre solidaire et ses questions. Le CCFD s'efforce, là où il intervient, d'aider les hommes et les femmes à s'organiser pour retrouver leur place, leur dignité. 17 octobre, journée du refus de la misère. C'est vrai qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas prendre en charge toute la misère du monde. On peut multiplier les raisons de ne pas regarder ces réalités. Mais soyons positifs. La journée du refus de la misère est une création du père Brzezinski et du mouvement ATD Quart-Monde qu'il a fondé. Un peu d'histoire. En 1987, plusieurs milliers de personnes se réunissent sur le parvis des droits de l'homme à Paris. La journée est officiellement reconnue par les Nations Unies depuis 1992. Et en 2022, c'est le 35e anniversaire. Pourquoi une journée mondiale du refus de la misère? D'abord, pour faire entendre la voix des plus pauvres, faire entendre ceux qui sont habituellement réduits à leurs difficultés et qui en sont jugés responsables parfois. Cette journée leur donne la parole sur les conditions indignes que ces personnes vivent, sur leur résistance quotidienne, sur leurs aspirations. On ne peut vaincre la misère qu'avec les premiers concernés. La deuxième chose, c'est mobiliser les citoyens et les responsables publics, parce que la misère, d'une certaine manière, c'est une violation des droits humains fondamentaux. Elle n'est pas fatale. Elle peut être combattue et vaincue. On a bien vaincu l'esclavage, puis l'apartheid. Donc, eh bien, on peut sûrement combattre la misère. On peut comprendre comment chacun, là où il est, peut agir. Un point d'appui contre la misère, c'est le mouvement ATD Quart-Monde à l'origine de cette journée. Il souhaite que les initiatives inspirées du message de la dalle du refus de la misère, autre qu'à des à Paris. Quel est le message de la dalle? Le 17 octobre 1787, des défenseurs des droits de l'homme et du citoyen de tous les pays se sont réunis sur ce parvis. Ils ont rendu hommage aux victimes de la faim, de l'ignorance et de la violence. Ils ont affirmé leur conviction que la misère n'est pas fatale. Ils ont proclamé leur solidarité avec ceux qui luttent à travers le monde pour la détruire. Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. Alors, on peut se poser la question, la pauvreté, quelques chiffres. Eh bien, il y a beaucoup de personnes qui sont dépourvues de domicile, problème de logement. Il y a un certain nombre de personnes, en France même, qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire qui reçoivent moins de 1200 euros par mois. Il y a un certain nombre de foyers français qui sont allocataires du RSA. Il y a des retraités qui sont dans la misère et qui doivent travailler. Et puis il y a 800 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde, soit une personne sur 9. Ça fait beaucoup de monde, tout ça. Il y a des analphabètes, 16% de la population mondiale. Et puis, il y a aussi la dégradation de la situation des femmes. Prenons un exemple. L'Angola a un taux de 182 enfants décédés pour 1000 naissances. Le Japon, un taux de 3 pour 1000. Donc ça veut dire que si on en prend les moyens, la misère peut être combattue. Alors le côté positif, c'est que des associations s'unissent pour agir avec les plus pauvres. Les Nations Unies s'exprimaient ainsi. La grande pauvreté doit concerner tout le monde, car elle est liée au regard et aux relations que le reste de la société entretient avec les plus pauvres. On peut dire aussi que la journée du 17 octobre, c'est bien peu. Mais c'est un appel à mettre en évidence ce que vivent les pauvres. Et du côté de l'Église, du côté chrétien, le pape s'exprime ainsi. La misère n'est pas une fatalité, elle a des causes qu'il faut reconnaître et combattre pour honorer la dignité de tant de frères et de sœurs. Il a écrit une belle encyclique aussi, qui s'appelle Fratelli Tutti, au numéro 243 de ce texte, il dit que la recherche de l'amitié sociale n'implique pas seulement le rapprochement entre groupes sociaux éloignés après une période conflictuelle dans l'histoire, mais aussi la volonté de se retrouver avec les secteurs les plus pauvres et les plus vulnérables. La peine n'est pas simplement l'absence de guerre, mais c'est l'engagement inlassable de reconnaître, de garantir, de reconstruire concrètement la dignité, oubliée, ignorée de nos frères pour qu'ils puissent se sentir les principaux protagonistes du destin de leur nation. Parce que souvent, c'est au numéro 234 de l'encyclique Fratelli Tutti, les derniers de la société ont été offensés par des généralisations injustes. Parfois, plus pauvres et exclus réagissent par des actes qui paraissent antisociaux. Par exemple, on peut rappeler les gilets jaunes. Mais, nous dit le pape, il est important de comprendre, c'est toujours au numéro 234 de Fratelli Tutti, que ces réactions sont très souvent liées à une histoire de mépris et de manque d'inclusion sociale. L'option pour les pauvres doit nous conduire à l'amitié avec les plus pauvres. Tous frères, c'est déjà tout un programme. Et c'est un programme que le CCFD vit dans des projets de développement.
Très concrètement, que peuvent faire les États pour éviter ces crises alimentaires à répétition ?
C'est une bonne question. Par rapport aux crises alimentaires, je pense que la première chose à dire, c'est qu'on est à la troisième crise des prix alimentaires en moins de 13 ans. On a eu 2008-2009 avec les émeutes de la faim, on a eu 2011-2012 avec la crise des prix alimentaires qui a notamment nourri les printemps arabes. Là, actuellement, on a une crise des prix alimentaires et malheureusement, les mécanismes en fait, d'alimentation de cette crise sont globalement les mêmes. Notre système alimentaire mondialisé n'a pas été construit et n'a pas été pensé, en fait, premièrement pour assurer la souveraineté alimentaire des peuples et des populations, et deuxièmement pour être résilient à tous les chocs. Ces chocs économiques, climatiques et sociaux risquent malheureusement de se multiplier, et il y a en fait une absolue nécessité de repenser nos politiques agricoles, nos politiques alimentaires, considérer que l'agriculture n'est pas une marchandise comme une autre, par exemple à sortir des traités de libre-échange, limiter tous les risques de spéculation, que ce soit au niveau national ou international, sur les denrées agricoles et alimentaires. Ce sont des initiatives qui ne peuvent pas être prises au niveau d'un État ou d'un groupe d'États, c'est pas la France ou l'Union européenne, par exemple, qui tout d'un coup va dire « bah, il faut la souveraineté alimentaire dans le monde ». C'est une initiative qui doit être prise au sein des Nations Unies à travers en fait une initiative internationale où les pays qui souffrent le plus de la faim sont assis à la table des négociations. On a une instance internationale pour ça qui s'appelle le Comité de la Sécurité Alimentaire Mondiale, et c'est vraiment l'instance qui a été créée et qui a été pensée pour donner la voix aux pays les plus impactés et donner la voix aux organisations de producteurs et aux syndicats de consommateurs qui représentent les personnes les plus affectées par la faim. Et je pense que c'est primordial, en fait, d'inverser notre spectre de pensée par rapport aux solutions à mettre en œuvre. Il faut vraiment comprendre que ce n'est pas nous qui allons apprendre aux gens comment lutter contre la faim. Les solutions, elles sont déjà là et elles sont déjà mises en œuvre au niveau du terrain.
Les solutions existent, on le voit. Alors, quelles sont celles que vous mettez en place en Tunisie ?
Par exemple, il faut changer la politique concernant la gestion de l'eau. C'est nécessaire d'éviter les plantes qui consomment beaucoup de l'eau. Donc, c'est nécessaire de faire une carte agricole qui est adaptée par le changement climatique et surtout éviter les produits qui consomment l'eau et exporter à l'extérieur. Et c'est nécessaire d'éviter la dépendance alimentaire. Par exemple, dans le céréal, il a importé plus de 40% de céréales et de l'Ukraine. Donc, il y a la guerre maintenant. Comment faire la sécurité alimentaire? Donc ici, il y a une autre solution, c'est de baser sur les semences d'origine.
Ibrahim, vous aussi, des solutions concrètes existent. Concrètement, quelles sont-elles ?
Absolument. Bon, il y a des solutions qui sont déjà mises en œuvre. Je pense qu'il faut repenser carrément la politique agricole, qui est beaucoup plus basée sur l'appui aux entreprises agricoles et non basée sur les petites exploitations agricoles, qui constitue à peu près 80% des producteurs au niveau de notre territoire. Une politique qui met beaucoup plus l'accent sur la subvention des engrais, sur la subvention des gens jeunes qui ne sont pas du tout accessibles aux petits producteurs. Donc, à mon avis, il faut repenser cette politique et investir davantage dans l'agriculture. Aujourd'hui, au Mali, c'est 15% du budget qui est attribué à l'agriculture. Mais quand on voit réellement les postes dans lesquels ces 15% sont investis, ça ne va pas directement en appui aux petits agriculteurs. Donc, à mon avis, à côté de cette volonté politique d'appuyer les petits producteurs, il faudrait augmenter considérablement ce budget d'appui à l'agriculture.
Voilà, dans certains pays d'Asie, on peut le dire aussi, il y a des avancées.
Alors oui, il y a certaines avancées, des mouvements paysans, des mouvements pour le droit à la forêt, des mouvements sociaux qui parviennent à contrer en fait les régressions plutôt. Parce qu'effectivement, il y a quand même une tendance assez forte en Asie d'avoir un modèle de développement qui accapare les ressources, qui accapare les terres, les océans, les forêts et qui du coup ne permettent pas la création de conditions d'une vraie souveraineté alimentaire des populations. Donc effectivement, il y a quand même des lois qui ont été obtenues dans certains pays, je pense le droit à la forêt en Inde notamment, qui ont fait que, en tout cas, les populations peuvent se saisir d'instruments, de lois et d'instruments juridiques pour essayer de préserver leurs forêts, leurs communs, de les régénérer et du coup de re-territorialiser un peu la nourriture des populations. Mais ça reste quand même un défi très important. Il y a beaucoup de mobilisations qui sont en cours sur l'ensemble du continent, pour effectivement faire en sorte que le modèle de développement promu soit plutôt à destination des populations qu'à destination de l'export, qu'à destination d'une économie plus mondialisée.
Alors ce qu'on ressent bien sûr dans toutes vos réponses, c'est aussi cette volonté politique qui doit surgir. Comment peut-on agir en France au-delà des actions de l'État pour la France et à l'international ?
Concrètement, ça va être de soutenir toutes les actions de plaidoyer, que ce soit au niveau des députés, au niveau des dirigeants politiques et du gouvernement. Assez régulièrement, au CCFD, on lance des contributions au réseau de bénévoles qui est chargé de plaidoyer. Je pense que les citoyens français, et en particulièrement en fait les bénévoles du CCFD, ont un rôle clé à jouer pour amplifier les messages, pour nous aider à influencer les députés, pour qu'il y ait des prises de parole ambitieuses et que le gouvernement entende les demandes de nos partenaires, les demandes des populations du Sud et concrètement arrive à impulser le changement politique.
Est-ce que vous trouvez que c'est un sujet qui était trop oublié dans l'actualité des médias ?
Oui, clairement. Concrètement, on parle d'agriculture, d'alimentation et de sécurité alimentaire que quand on a une crise internationale majeure. On en a parlé. En 2009, il a fallu attendre en fait des émeutes de la faim, que des émeutes de la faim éclatent partout dans le monde pour qu'enfin on commence à s'intéresser en fait à la sécurité alimentaire. Ça faisait un an et demi que cette crise des prix alimentaires de 2009, elle était prévue et elle était anticipée. Les mécanismes, on les connaissait. On a fait la rebelote en 2011-2012 et tout l'enjeu actuel, c'est que la crise alimentaire qui arrive suite à l'invasion russe de l'Ukraine, on arrive à la prendre à bras-le-corps en fait à temps et qu'on arrive à alerter les pouvoirs politiques et à lancer une dynamique de coordination internationale à temps pour justement éviter qu'on fonce dans le mur comme on est en train de le faire actuellement.
Il va de soi que les projets dont nous avons parlé, que ce soit la forêt en Inde, le soutien pour préserver la souveraineté alimentaire des populations ici et là, l'agriculture pour que les populations puissent utiliser l'eau pour elles-mêmes et pour leur culture, tout cela est largement soutenu, initié par le CCFD qui, de plus, accompagne toutes ces personnes pour qu'elles puissent vivre de leur terre. Bonne semaine à tous, au revoir.